vous invite à ouvrir vos Bibles, premier chapitre de l'épître de Paul aux Romains. Dimanche dernier, nous avons commencé avec cette épître et nous allons poursuivre. Donc, Romains chapitre 1, je vais lire les premiers 7 versets. Et ce que nous verrons ce matin, ce seront les versets 2 et 3 et 4. Romains chapitre 1. Donc Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc dimanche dernier, nous avons commencé avec ce premier verset et nous avons souligné le fait que Paul, déjà parce que les Romains ne le connaissent pas, il n'a jamais été à Rome là, et quelques personnes le connaissent déjà, mais il n'a jamais été là, et alors de quel droit est-ce qu'il se présente? Donc il a dit, mais moi j'ai été mis à part par le Père dès avant ma naissance, j'ai été appelé par Jésus-Christ sur le chemin qui mène à Damas, et j'ai été appelé par le Saint-Esprit dans l'église d'Antioche. Et donc voilà la base de mon apostolat. C'est pas parce que j'ai des grandes connaissances, c'est pas parce que j'ai des doctorats et des diplômes chez les hommes, c'est parce que Dieu m'a appelé. Et il est apôtre, il est envoyé par Dieu. Et il dit, et j'ai été envoyé, j'ai été mis à part, c'est pour annoncer l'évangile de Dieu. Et il dit donc, en fait, l'épître de Paul aux Romains, eh bien, ce n'est qu'une explication de ce que contient l'évangile de Dieu. Et donc, ça avait traité beaucoup de sujets. Jésus avait promis à ses disciples, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous enseignera beaucoup de choses que vous ne pouvez pas recevoir encore. Donc l'apôtre Paul n'est que l'accomplissement de la promesse du Seigneur dans la chambre haute lorsqu'il a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Et cette bonne nouvelle, eh bien, alors il est en train de le décortiquer et de nous faire découvrir tout ce qu'il y a dedans. Quand les hommes ont découvert l'atome, ils étaient contents, ils ont dit « Ah, ça y est, on a trouvé la base, l'élément essentiel de tout ». Puis après, ils ont commencé à démonter l'atome, et puis ils ont vu que c'était aussi vaste que l'univers. Eh bien, lorsque l'évangile de Jésus-Christ, peut-être quand on l'a reçu, on a dit « Ah, ben, c'est une chose simple, c'est Dieu nous aime, je suis pécheur, Christ est mort pour moi, et puis il suffit d'accepter ça, et c'est tout simple, c'est tout bon ». Et c'est vrai, et toute la puissance est là, et tout le message est là. Mais après, ici, dans cette épître, comme il fait par ailleurs aussi, eh bien, il va commencer à nous dire, mais je vais vous dire tout ce qu'il y a là-dedans. Et pourquoi c'est là. Et donc, il nous dit que, voilà, c'est l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Dieu. Et bien sûr, c'est petit à petit, pendant les siècles, à travers les siècles, que ce livre a été révélé. Et donc nous on arrive sur la fin, on a le texte entier. D'autres ont dû se contenter avec beaucoup moins et ils ont dû beaucoup faire confiance à Dieu et comprendre moins que nous. Mais bon, c'est pas toujours parce que nous avons tout le texte que nous comprenons tout, c'est encore riche encore. Maintenant dans ce message, l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, eh bien, il y a un personnage particulier, et il faut qu'on soit clair là-dessus, de qui il s'agit. Donc, ce sera, il dira, bien sûr, son but, c'est de nous dire, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le personnage principal dans cet évangile. Et donc, il commence au verset 2. Il nous parle de cette promesse du Sauveur. Ensuite, nous verrons aussi qu'il nous, l'identification du Sauveur. Et puis, on verra troisièmement la déclaration du Sauveur. Mais la promesse du Sauveur, c'est quelque chose qui s'est fait depuis le début. Souvenez des paroles de Jésus lorsqu'il a rencontré ces deux hommes sur le chemin d'Emmaüs. Et ils avaient une tête de déprimé, de déprime, de découragement, de déception. Ils devaient avoir une drôle de tête. Et Jésus, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, n'est-ce pas ? Peu importe dans quel état on est, il vient nous trouver. Il sait où on est, il sait dans quel état on est, et puis il va changer le visage de ces hommes. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va leur dire, écoutez, et il va leur faire une étude biblique, j'aurais voulu avoir l'enregistrement, j'aurais voulu avoir ça, mais en gros, on a l'essentiel dans les Écritures, mais il est dit qu'il a... Il nous parle de cette. Que Christ avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et il nous dit ensuite, et Jésus dit à ces hommes, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? Et puis eux, ils sont là. Non, on n'a jamais compris ça. Nous, on voyait un sauveur glorieux, un roi qui allait nous délivrer de ces Romains et de tous les autres. Et Jésus, commençant par Moïse et par tous les prophètes, leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il nous dit dans Luc chapitre 24, versets 25 à 27. Donc, en fait, et ici, l'apôtre Paul est en train de dire la même chose. Il dit, en fait, vous savez, c'est une chose, c'est pas une révélation de dernier moment, hein, c'est quelque chose que Dieu est en train de révéler depuis longtemps. Et on pourrait prendre des passages depuis le Pentateuque, au travers les psaumes, les écrits des prophètes, qui nous annoncent la venue du Messie. Mais... récemment, là, je crois que c'était le 16 décembre, on avait fait une étude et on avait vu les prophéties, pas mal de prophéties. Donc, si vous voulez aller sur le site de l'Église, vous repartez sur le 16 décembre et puis vous verrez certaines prophéties. Donc, je ne vais pas les reprendre, celles-là. Mais plutôt, je vais m'intéresser au fait que, finalement, tout ce principe de sacrifice dans l'Ancien Testament annonçait la venue du Sauveur. Et... il y avait dans l'Ancien Testament deux sortes d'offrandes. Il y en avait une qu'on appelait l'Holocauste. C'était le symbole, c'était une manière d'exprimer son remerciement à Dieu et aussi de l'adorer. Puis c'était la communion avec l'autel. Et puis après, il y avait un autre sacrifice qui était le sacrifice d'expiation pour les péchés. Et donc c'était un sacrifice où le sang était versé et c'était pour obtenir, on confessait, la personne confessait son péché et demandait à Dieu le pardon. Et donc, la première fois que nous avons un tel sacrifice, eh bien, c'est justement dans Genèse chapitre 3, dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu s'est adressé à eux. Et ensuite, il nous dit dans Genèse chapitre 3 et au verset 21, il nous dit « L'Éternel, Dieu... » fit à Adam et à Ève des habits de peau et les revêtit. Des peaux d'animaux, hein. Et donc, c'est les premières morts. C'était, le péché est entré dans le monde. Jusque-là, les animaux ne se mangeaient pas entre eux. Tous étaient herbivores. C'était vegan à 100%. Hein. On revient aux origines. Mais à cause du péché, il y a la première mort. Et c'est Dieu lui-même, hein, c'est pas quelqu'un d'autre qui essaye de proposer quelque chose à Dieu, non, c'est Dieu lui-même qui sacrifie et qui habille Adam et Ève, les couvre en attendant. Et en fait, c'est ça le sens de ces sacrifices dans l'Ancien Testament, c'était pour couvrir le péché. Je vous rappelle une autre situation, c'était dans la dixième plaie en Égypte. C'est ces plaies qui étaient contre Pharaon, et Pharaon qui refusait de laisser partir son peuple. Et donc la dernière plaie, la plus sévère, celle qui a fait le plus mal, c'est la condamnation à mort de tous les premiers-nés. Et là, ça a touché Pharaon très directement, même si beaucoup d'autres ont souffert aussi à cause de cela, donc à cause de la dureté de son cœur. Et Dieu a dit aux enfants d'Israël, il leur a dit, mais le seul moyen pour vous de protéger votre premier-né, eh bien, c'est de sacrifier un agneau, de prendre le sang et d'oindre le linteau et les deux poteaux de la porte d'entrée. Et comme ça, quand l'ange passera, eh bien, il passera au-dessus. Hein, c'est ça le sens de Pascal. Et donc, il passera au-dessus. Et là, encore une fois, le principe, c'est une vie innocente. Hein, pour le cas d'Adam, ces deux animaux qui n'auraient rien à faire avec le problème, qui ont dû sacrifier leur peau pour couvrir Adam et Ève. Ben là, c'est un agneau qui doit... innocent, qui n'est pour rien avec le problème, qui n'a rien à faire, aucun lien avec le problème, mais pour sauver le premier-né. Et après, on pourrait bien sûr faire référence à tous les sacrifices, le système que Dieu a mis en place dans le jardin, dans le désert, et tous ces sacrifices et toutes ces complications. Et si vous, peut-être la première fois que vous avez lu l'Ancien Testament, vous avez trouvé ça assez difficile à lire. Et tous ces détails, mais ça montre la complexité de la chose. Hein. Vous savez, le médecin aussi, vous lisez ses livres, c'est assez compliqué aussi. Hein. La première fois qu'on les lit, c'est du chinois, comme on dit. Mais c'est compliqué, mais parce que le problème est profond. Mais le principe à retenir, c'est que il fallait, le péché doit être couvert jusqu'au moment où il pouvait être effacé. Et tout à l'heure, nous avons lu le psaume 22, où qui est décrivait, et ça c'est 1000 ans avant Jésus-Christ, David, qui pensait décrire un événement dans sa vie, mais finalement il décrivait mieux l'événement et le sacrifice de Christ sur la croix. Et lui, encore une fois, une victime innocente, qui paye pour des coupables. Hein, Jésus-Christ, on aurait pu dire, c'était le seul homme. Adam et Ève étaient innocents jusqu'au jour où ils ont désobéi. Jésus-Christ est resté innocent jusqu'à la croix. Mais la victime innocente, encore une fois, est en accomplissement de cette parole de Jean-Baptiste, qui, quand il l'a vu, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ensuite, nous avons Ésaïe, et encore là, un passage étonnamment clair. Ésaïe 53, où Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, décrit et nous dit que Christ vient, lui qui était sans fraude, il nous dit, eh bien, il meurt pour le péché du peuple. C'est encore ce principe-là. Et puis un dernier passage, peut-être qui est moins connu, c'est dans Zacharie chapitre 3, donc tout à fait à la fin de l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 3 et les versets 9 à 10, là il nous parle du germe, il nous parle du serviteur de l'Éternel qui va intervenir pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Et donc cette pensée, elle est là tout le long. Hein, ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas une révélation tardive et où Dieu essaye de rattraper une situation. Hein. On a essayé de donner une religion, le judaïsme, et puis finalement ça n'a pas trop réussi et les gens n'ont pas été trop fidèles. Donc Dieu, eh bien, il dit, bon, il faut qu'on propose quelque chose de plus simple, de moins compliqué, et on va essayer ça, peut-être ça va marcher. Ce n'est pas du tout ça. En fait, la mort de Christ, c'était l'aboutissement de tout ce qu'il mettait en place. La loi de Moïse, c'était là pour nous rendre conscients de notre état et de notre problème. Et de nous dire, vous savez, malgré tous vos efforts, le seul moyen d'obtenir le pardon de vos péchés, c'est qu'une victime innocente meure à votre place. Et une fois que ça, ça a été établi, et ils l'ont mis à l'épreuve, combien de fois ils se sont éloignés, Dieu a pardonné, et grâce au sacrifice, les péchés étaient expiés et couverts sur le propitiatoire, hein, jusqu'à la venue de Christ. Eh bien, Jésus-Christ était l'accomplissement. Hein, les prophètes en avaient parlé, Moïse en a parlé, les prophètes en ont parlé, tout cela. Et Jésus ne fait que dit voilà, maintenant qu'on a établi comment on pouvait être sauvé, eh bien je suis l'agneau qui peut vous sauver. Et c'était quand même c'est extraordinaire. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que cette manière de faire, cette manière d'obtenir le pardon des péchés, eh bien aucun homme n'y avait jamais pensé. Vous étudiez toutes les religions du monde, il n'y en a pas une qui propose ce moyen-là. On en a proposé, hein, chacun a son autre. Soit c'est par des bonnes œuvres, soit c'est par une série de vies, d'existences, par les moyens desquels on essaie d'améliorer notre état. Ils ont pensé à des choses vraiment complexes et intéressantes. C'est bien monté, le seul problème c'est que ça ne marche pas. Mais la seule... Vous savez, en fait, les êtres humains... Là, hier, vous avez entendu ce qui s'est passé à Paris avec cette boulangerie qui a explosé. Et ces deux militaires du feu, là, c'est les pompiers qui ont sacrifié leur vie. Vous savez, mais dans notre monde, avec la méchanceté qu'il y a dans le monde, avec l'égoïsme qu'il y a dans le monde, avec cette attitude qui est là, mais le principe d'essayer de sauver une vie à tout prix, ça existe encore. Et vous savez, même dans les pires situations et dans les régimes les plus difficiles, il y a quand même quelque chose dans l'être humain qui dit on va faire des sacrifices pour sauver une vie. Vous savez, ça c'est des restes de ce que Dieu avait mis dans le cœur de l'homme. C'est quelque chose qui finalement, c'est un reste de quelque chose qui vient du Créateur et qu'il a mis dans sa créature. Et même aujourd'hui, l'homme qui renie Dieu et qui essaie de se convaincre que Dieu n'existe pas, il a quand même en lui ce reste de pensée qui dit « on fait tout pour sauver une vie ». Et on a constamment des histoires, et on est touché même jusqu'aux larmes parfois, des histoires où une vie est sauvée. Et ce que quelqu'un a fait pour sauver une vie. Mais finalement, le plan du salut de Dieu qui présente, c'est tout à fait conforme à cette pensée-là. C'est lequel on fait tout pour sauver une vie. Et on dit, mais c'est pas possible que Dieu sacrifie Jésus. Oui, on fait tout. Si c'est pour sauver une vie, on le fait. Même si le sacrifice est grand. Et Dieu qui savait qu'il pouvait ressusciter Jésus après, donc il a dit, bon, je peux le faire, et je vais le faire. Et c'est tout à fait conforme, et pour moi je dis, mais c'est extraordinaire. Et c'est que finalement ça me confirme que c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu, parce que l'ennemi de Dieu qui veut défaire l'œuvre de Dieu, lui, il propose tout sauf cela. Hein? Il est toujours en train de gâcher des vies, en train de les mener vers leur propre autodestruction. Dieu, eh bien, il dit, moi, mon principe, c'est que la vie, c'est sacré, et on fait tout pour la sauver. Et il dit, l'être humain a en lui mon image, et est précieux, et je suis prêt à tout faire pour le sauver. Et je suis même prêt à devenir homme, revêtir d'un corps pour sauver l'homme. C'est Jésus n'est pas une apparition de nulle part. C'est un plan. Et il est la réalisation d'un plan qui a été révélé à travers les millénaires et qui a été accompli il y a 2000 ans et qui est tout à fait conforme à ce qu'on trouve dans notre être intérieur, de être humain, des restes de ce qui était bien fait et Dieu veut sauver cela. Mais maintenant, bon, d'accord, une âme innocente qui donne sa vie. Mais maintenant, il faut pouvoir l'identifier. Qui est cette âme innocente qui peut sauver notre vie? Et donc, c'était important de pouvoir le reconnaître. Et les prophètes nous ont donné des signes, et je ne vais pas les énumérer tous, mais il nous a donné les moyens de reconnaître ce personnage clé dans cette bonne nouvelle. C'était pas suffisant que Dieu apparaisse sous forme humaine. Il l'a fait plusieurs fois dans l'Ancien Testament, des anges avaient une forme humaine, même Dieu lui-même était, hein, c'est avec Abraham, il a vu trois hommes qui venaient vers lui, finalement il y avait un qui était Dieu, hein, sous forme humaine, mais avoir l'apparence d'un homme n'était pas suffisant pour être le sauveur du monde. Il fallait un vrai homme, pas seulement quelqu'un qui le ressemble. Dieu a dit, eh bien écoutez, je vais vous donner un homme, vous pourrez le reconnaître, il sera un descendant du roi David. Donc déjà vous pouvez éliminer beaucoup de monde. Et il nous dira aussi qu'il naîtra d'une vierge, hein, dans Ésaïe chapitre 7, il nous dit il naîtra d'une vierge. Et puis il nous dira, par Michée le prophète, Michée 5 verset 1, il dit il naîtra à Bethléem. C'était important de pouvoir identifier, de savoir que c'était bien lui, parce qu'il y avait eu beaucoup de discussions, est-ce que, même pendant son ministère. C'est lui, c'est pas lui, c'est vraiment lui, non, c'est pas lui, ah peut-être c'est lui, et puis il y avait toutes sortes d'idées, hein. C'était important de pouvoir l'identifier. Mais il semble qu'il n'y a pas eu de problème de le reconnaître comme fils de David, parce que je pense à l'aveugle de Jéricho, là, qui dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» C'est-à-dire, c'était compris qu'il était le fils de David. Déjà, ça, c'était clair, c'était établi. Et ensuite, nous avons aussi le ministère de Christ qui, finalement, confirme. Hein, et là, on pourrait voir des passages... Matthieu chapitre 12, qui était en fait l'accomplissement de Ésaïe 40, c'est les premiers versets, mais il y avait son ministère, ça a permis de l'identifier parce qu'il avait un ministère qui ressemblait à personne d'autre. Et les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les malades sont guéris, et puis c'est pas en petit nombre, hein, c'était extraordinaire. Et sachez, hein, je dis en passant, hein, que les miracles de Jésus, si elles étaient faites aujourd'hui, avec tout ce que la science sait, ce seraient encore des miracles. Hein. Il n'y a aucune explication pour ce qu'il a fait. Et puis après, il y a eu, bien sûr, Jean-Baptiste qui dit « C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et il y a eu la voix du ciel au moment du baptême de Jésus, cette voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et pour qu'on ne se trompe pas, hein, qu'entre Jean-Baptiste et Jésus, eh bien, il y a le Saint-Esprit descendu comme une colombe et s'est posé sur Jésus. Hein, donc c'était de manière visible, pour que c'était comme si il le montrait du doigt. Il dit c'est lui, hein, c'est pas un autre, il n'y a que lui. C'était important de savoir. Et Jésus était réellement homme. Il était homme. Descendant, et dans Matthieu, vous lisez, c'est toujours difficile de donner à quelqu'un le Nouveau Testament et de dire, écoute, commence à lire. Puis tout de suite, les premiers versets, c'est une généalogie, c'est pas intéressant tout de suite. Mais c'est important, parce que c'était important qu'il soit fils de David. La généalogie est importante. On en a une autre dans l'évangile de Luc, celle de la généalogie de Marie. Et tous les deux sont descendants de David. Donc Joseph, en tant que le père adoptif, parce qu'il l'a adopté, hein, après la naissance de Jésus, il l'a adopté, il l'a élevé comme son fils. Et puis ensuite, Marie, qui était sa mère, et les deux étaient descendants de David. Ça, c'était, il n'y avait pas de discussion là-dessus. Hein, il y avait pas, les pharisiens n'ont pas fait un grand cas là-dessus. C'était clair, c'est lui, c'est un homme, c'est réellement un homme. Et il fallait un homme innocent, sans péché, qui puisse devenir le sauveur. Mais non seulement cela, et c'est, on l'a vu il y a deux, trois semaines, dans l'annonciation hein, de l'ange Gabriel à Marie, il a dit, oui, il sera fils de David, mais il sera aussi appelé fils du Très-Haut, par vertu du Saint-Esprit, qui va intervenir. Et les deux natures sont là. Et ici, dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul souligne les deux. Il dit, oui, les prophètes ont annoncé, et ce concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Donc Jésus, homme, fils de David. Mais il dit aussi, mais il y a le côté où il est fils de Dieu. Et il fallait qu'il soit fils de Dieu. Et réellement Dieu. Hein. Donc c'est pas comme certains de nos amis qui circulent là, qui essayent de nous faire croire que fils de Dieu, ça ne veut pas dire sa divinité. Hein. Mais, et comment est-ce qu'il a été déclaré fils de Dieu ? Oui, l'ange avait dit à Marie, mais Marie était seule. Il a dit, il est fils du Très-Haut par vertu du Saint-Esprit. Mais il n'y avait pas de témoin pour cela. Mais la résurrection de Christ, alors là, ça c'était autre chose. Et vous savez, depuis la naissance de Jésus à Bethléem jusqu'à la crucifixion, vous avez vu les gens qui basculaient. Tour à tour. Parfois, ils étaient, ah oui, c'est le Messie, non, c'est pas le Messie. On l'a appelé de tous les noms. On l'a appelé Jésus de Nazareth, on l'a appelé le fils du charpentier, on l'a appelé Jésus, on l'a appelé fils de David, on l'a appelé, même on l'a dit, bon, c'est par l'autorité de Bélial. On a dit toutes sortes de choses sur lui. Tout le monde avait des versions différentes en fonction de ce qu'il faisait, les plaisait ou les plaisait pas, et tout cela. Mais à partir de la résurrection de Christ, là, il y a un trait qui est tiré dans le sable. On se met d'un côté ou de l'autre. Il n'y avait plus de discussion. Ça, là, c'était clair, c'était tranché. À partir de la résurrection de Christ, eh bien, où on était pour, où on était contre. Vous savez, c'était... Ces gardes qui avaient été placés là autour de la tombe de Jésus pour éviter, bon, ça fait drôle de penser à des gardiens pour empêcher quelqu'un qui est mort de partir. Bon, après, ils ont soupçonné les disciples de peut-être avoir des idées. Mais, vous savez, après, pendant qu'ils étaient là, ben, ils savent ce qu'ils ont vu. Ils étaient plusieurs, hein, ils savent ce qu'ils ont vu, ils savent ce qu'ils ont ressenti. Et c'était tellement fort qu'ils étaient... comme mort, et après les sacrificateurs, ils viennent le voir et il dit, regarde, hey, c'est arrivé, hein, il y avait un ange qui est venu, la tombe est ouverte, et puis finalement c'était vide. Hein. Il dit, écoute, dites plus ça. Hein. Et puis, pour les faire taire, ils leur ont donné une forte somme d'argent. Vous savez, quand on commence à payer quelqu'un très cher pour qu'il ne parle pas, c'est qu'il y a anguille sous pierre, hein. Hein, demander à un certain président, à un certain pays dans ce monde, hein, quand on paye quelqu'un, c'est qu'il y a certainement quelque chose. Et on les paye pour dire, en tant que gardien, la garde reconnue doit dire on s'est endormi pendant la garde. Et les disciples, des disciples peureux, tremblants, eh bien, sont arrivés et puis ils ont réussi à enlever la pierre et enlever. Vous savez, les pauvres, ils avaient du mal à raconter ça. Ça ne les arrangeait pas. Et puis, qu'ils racontent ça à quelqu'un, ils disent, mais vous savez, ton alibi, ça ne tient pas debout. Hein. Ce n'est pas convaincant, hein, votre histoire. Ça ne pouvait pas l'être. Ils disent, comment vous étiez là, puis ces disciples-là sont venus, puis... Hein. Non, mais ça ne va pas, non. Tu racontes autre chose. Hein. Raconte-moi autre chose, hein, mais pas ça. Et c'était... parce que c'était quelque chose de sûr. Et c'est l'apôtre Paul, c'était un pharisien à l'époque. La croix et tout ça, c'était un pharisien. Il entendait tout ça. C'est peut-être un junior, mais il était là quand même. Et il entend cette histoire. Il dit, bon, on va dire comme ça. Hein, mais vous voyez, le gars, il était trop intelligent pour être bête. Hein. Paul, il est là, et puis... Après, il entend Étienne. Étienne et sa prédication, il est là, il l'entend. Et puis à la fin, Étienne qui dit, moi je vois le Seigneur debout. Et puis son visage devient rayonnant. Il n'est pas en train de raconter. Vous savez, vous racontez des histoires, le visage ne devient pas rayonnant. Hein, même si c'est une belle histoire. Là, il voit le visage d'Étienne qui reflète une gloire. Et après, il voit, et puis Étienne est lapidé parce qu'on ne peut pas supporter cela, donc il faut le lapider. Et donc, Étienne qui dit pardonne-leur, et il répète les mêmes paroles que Jésus, hein, il dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Et Paul voit tout cela. Hein. Paul, c'est un gars intelligent. Et plus il essaye de refouler cette pensée de la résurrection, plus il a du mal. Et vous savez, et je pense que c'est à cause, parce qu'il est en train de, à l'intérieur de lui, il est en train de combattre cette pensée. Non, Christ n'est pas ressuscité. Non, Christ n'est pas ressuscité. C'est ça qui l'a rendu violent. Et au point où il commence à persécuter les chrétiens, parce qu'il faut les faire taire. Je ne veux plus entendre cela, il faut les faire taire. Mais la lutte, je pense que la lutte était terrible au-dedans de lui. Et finalement, la lutte était en train de produire du fruit. Parce que le jour où Jésus s'adresse à lui sur le chemin de Damas, il dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et vous savez, il n'y a pas de combat ni rien du tout. Ce Saul de Tarse, il se rend tout de suite. Je pense que, hein, j'emploie le mot « timing » ou le « minutage » si vous voulez, pour faire plus français, mais il est exact. Et Jésus vient lui parler jusqu'à il n'a plus de réponse pour sa logique et son raisonnement. Et il y a un travail qui s'est fait. Le témoignage d'Étienne et entre d'autres, et puis tous ces chrétiens qu'il mettait en prison, et puis leur témoignage, tout ça, ça le détruisait. Il était arrivé au point où il n'y avait plus rien. Et puis Jésus, juste au bon moment, Jésus qui sait ce qui se passe dans nos cœurs, qui sait ce qui se passe, il arrive, il lui parle, il dit, écoute, tu sais, je suis Jésus que tu persécutes. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Ah, il n'y a même pas de combat. Parce que le combat se faisait. Hein. Et là, il dit, oui, on a essayé de faire taire. Ils ont menacé. Le Sanhédrin ne pouvait plus dire, c'est pas vrai. Tout ce qu'il pouvait dire à Pierre et Jean, il disait, ne parlez plus en ce nom, ne le dites plus, on ne veut pas l'entendre. Mais il ne pouvait plus dire, c'est pas vrai. Et Paul dit, ça a été déclaré, Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance, on ne pouvait plus résister, impossible. Et il dit, et ça, c'est l'accomplissement de tout ce que Dieu avait fait jusque-là. Ce qu'il avait préparé, mis en place. Et donc, je relis ce passage maintenant avec tout ce qu'on vient de dire. Il dit, l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son fils de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. Il dit en fait, écoutez, l'évangile de Dieu, c'est un évangile qui est en préparation depuis plusieurs millénaires et qui aboutit là en la personne de Christ. On peut l'identifier, on sait que c'est bien lui. Et puis finalement, il y a la puissance qui m'a vaincu, il dit, cette puissance de la résurrection de Christ. Cette puissance est déclarée avec puissance, fils de Dieu. Il a dit, moi, depuis, je n'ai plus de doute. Jésus-Christ est réellement fils de Dieu. Et, et il parle à des juifs, parce qu'il y avait des juifs dans l'église de Rome, et il y avait aussi des païens. Et il dit, écoutez, c'est ça le message, l'essentiel de l'évangile de Dieu. Et l'apôtre Paul est devenu ce témoin infatigable de l'évangile de Dieu, qui peut sauver n'importe quel homme. Et il l'a éprouvé, et ça s'est vérifié toujours. Et ça se vérifie depuis. Hein, des personnes, et nous faisons parmi de ceux qui sont témoins de cette puissance, que cette puissance est encore agissante. Et ce que Christ a fait sur la croix, bien, c'est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Et donc, nous avons toutes les raisons pour non seulement croire en cela, mais aussi de vivre cette foi et de le vivre devant le monde qui nous entoure. Si le témoignage d'Étienne était à tel point... Un homme comme Étienne aurait vu le garder. Mais Dieu l'a sacrifié pour avoir Paul. C'est extraordinaire. Et Étienne, eh bien, était gagnant, il était allé auprès du Seigneur. Et puis, Paul l'est maintenant, et nous devons suivre. Que le Seigneur nous aide à être fidèles jusqu'au bout. Hein, et que vraiment, il y a cette conviction soit là dans le cœur. Et la seule manière d'avoir cette conviction, c'est en relisant, en étudiant ces passages. Et la foi, eh bien, elle vient de cette lecture, cette méditation de la parole de Dieu. Et soyons des fidèles témoins de cette puissance de l'Évangile et des témoins de l'Évangile de Dieu. Nous allons prier. Père Céleste, nous sommes reconnaissants à toi pour ce plan du salut que tu as mis en place. Pour nous, ça, c'est à travers les siècles que tu as mis ça, mais pour toi, c'est 1000 ans, c'est comme un jour, et un jour comme 1000 ans, c'est quelque chose que tu as prévu dès le début, et c'était toujours là. Et le comportement des hommes et le rejet des hommes ne change rien à tes projets. Tu accomplis ce que tu as prévu accomplir. Et Seigneur, tu es plus sûr que les rochers, et nous voulons compter sur toi. Père, ce message de l'Évangile, c'est un bon message, et c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous tous. Et Seigneur, non seulement pour le recevoir, mais aussi pour le proclamer. Père, nous te prions de nous rassurer dans notre vie individuelle, dans notre marche chaque jour, et aussi de pouvoir le proclamer à ceux qui nous entourent. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du mois.